Studio Tamani, voici nos informations en français.
Mardi 12 avril, vous êtes à l'écoute de Studio Tamani. Il est 8h à Bamako et partout au Mali. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à la matinale. Bonne nouvelle pour les fidèles musulmans désireux de faire le pèlerinage cette année. Les autorités saoudiennes ont décidé d'augmenter à 1 million le nombre de personnes autorisées à accomplir ce pilier de l'islam. Où en sommes-nous avec les discussions entre le Mali et la CEDEAO? Pour l'instant, c'est le statu quo après l'échec de la dernière mission de l'organisation ouest-africaine dans le pays. Pourtant, des analystes politiques recommandent une reprise du dialogue. En cette période de chaleur, les incendies dans les points de vente de carburant à Tombouctou deviennent récurrents. Les services de la protection civile appellent les revendeurs et clients à la prudence. Tout de suite, le développement de ce titre avec Sekou Gadjigo. À la mise en onde de Mamadi Keïta, les autorités saoudiennes ont annoncé ce week-end l'augmentation du nombre de pèlerins cette année. Elles ont indiqué dans un communiqué que la participation a été relevée jusqu'à 1 million de pèlerins à travers le monde. Cette décision a été prise pour permettre à un plus grand nombre de fidèles musulmans d'accomplir le Hajj, l'un des 5 piliers de l'islam. Le point avec Khalifa Guita.
Pour le rendez-vous du grand pèlerinage de cette année, les autorités saoudiennes ont imposé un certain nombre de critères. Il sera donc limité aux pèlerins vaccinés âgés de moins de 65 ans. Les voyageurs venant de l'extérieur de l'Arabie saoudite devront présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, selon les autorités saoudiennes. Ce nombre d'un million constitue le nombre total des pèlerins étrangers ou nationaux du Royaume d'Arabie saoudite, et ce, selon les quotas alloués au pays, en tenant compte des recommandations sanitaires, précise le ministère saoudien. Les autorités saoudiennes entendent tout faire pour permettre au maximum de musulmans dans le monde de pouvoir accomplir le Hajj, poursuit le communiqué. Le pèlerinage est l'un des grands rassemblements religieux au monde et tous les musulmans qui ont les moyens doivent au moins l'accomplir une fois dans leur vie. À cause de la COVID-19, les autorités saoudiennes avaient autorisé seulement 1000 pèlerins en 2020 et 60 000 résidents en 2021. À ce stade, les responsables de la maison du Hajj du Mali n'ont pas encore réagi par rapport au quota accordé aux pèlerins maliens. Il faut indiquer que les fidèles musulmans effectuent le Hajj pendant le mois de Zulhijja, 12e et dernier mois du calendrier musulman, soit une quarantaine de jours après le mois du Ramadan.
Et après cette annonce de la tenue du Hajj et l'augmentation du nombre de pèlerins, les agences de voyage maliennes se mobilisent pour rafler un nombre conséquent de pèlerins. Les responsables de certaines d'entre elles restent optimistes et affirment que cette opération sera une aubaine pour leurs entreprises. Écoutons Amadou Maïga, directeur commercial du groupe TAM Clé du Voyage. Il est au micro de Khalifa Guita.
Après 2 ans, on est dans la 3e année, on nous donne 1 million, ça ne serait pas facile. Mais nous sommes en train de nous préparer. C'est le quota qui détermine tout. Tu ne peux pas réserver un hôtel, tu ne peux pas réserver un avion si tu ne sais pas combien de pèlerins il y a. Nous sommes dans l'attente des détails. Pour nous, donc la priorité revient d'abord à ceux qui sont inscrits en 2020, qui ont laissé leur argent à notre niveau. Ensuite viendra ceux qui ont aussi s'ils sont inscrits en 2021 et qui ont aussi laissé leur argent à notre niveau. Et s'il y a encore une possibilité, on vient maintenant en 2022. C'était un grand manque à gagner ces 2 années sans pèlerinage, c'est des dizaines de millions perdus. Si on arrive à le faire cette année, malgré la diminution du quota, ce sera un ouf de soulagement pour nos entreprises d'agents de voyage.
Faites un tour sur la page Facebook et le compte Twitter de Studio Tamani pour réagir à toutes ces informations. Un colloque national s'est ouvert hier lundi au Centre international des conférences de Bamako sous le thème « Comment rendre les frontières plus sûres ». Cette rencontre de 3 jours regroupe les gouverneurs des régions, des représentants de la société civile et des partenaires techniques et financiers. Des propositions pour la création d'une direction des gardes frontières sont attendues à la fin des échanges. Les détails avec Draman Maïga.
Pour élaborer une bonne stratégie de sécurisation de ces zones, il faut renforcer la coopération entre États, mais aussi entre les populations. C'est du moins ce qu'estime Daouda Bigga, participant venu de Gao, ville frontalière avec le Burkina Faso et le Niger.
Il faut faire des signes de développement au niveau des frontières. C'est ce qui va nous éviter certains problèmes. C'est les mêmes gens, c'est les mêmes peuples. Ils partagent les mêmes peuples. Parce que nous avons besoin des uns et des autres. Parce que rien ne peut aller dans le désordre. Ensemble, nous allons trouver les solutions.
Du nord au sud, d'est à l'ouest, les populations, notamment les jeunes, doivent être plus impliquées dans le processus pour un retour rapide et durable de la paix et la sécurité. Dimitri Samake, président du conseil régional de la jeunesse de Koulikoro.
Dans ces derniers temps, il y a tellement de choses qui se sont passées dans les zones frontalières. La jeunesse peut apporter beaucoup de choses, que la jeunesse soit impliquée en amont et en aval de ce processus, parce que nous sommes impliqués dans la sécurisation et nous sommes les victimes au cas de dégâts.
Pour le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, la stratégie qui sortira de ces échanges sera un grand pas vers la sécurisation du pays. Colonel Abdoulaye Meïga.
Ces dernières années, avec le problème d'insécurité, nous accordons tous sur le fait que la porosité, malheureusement, constitue notre vulnérabilité structurelle. Donc il va falloir peut-être trouver une solution définitive. Donc je pense qu'on aura vraiment besoin de l'appui et de l'expertise de tout un chacun pour nous aider à sortir de cette situation-là.
Ces échanges porteront aussi sur la création d'une direction des gardes des frontières. Le but n'est pas de créer une nouvelle force, mais de mutualiser les ressources disponibles, notamment la garde nationale et la gendarmerie, conclut le porte-parole du gouvernement.
Reportage signé Dramane Maïga. Je vous le disais dans les titres, bientôt un mois après l'échec des négociations entre le Mali et la CEDEAO, aucune communication sur de possibles rencontres, ni du côté de l'organisation sous-régionale, ni de celui des autorités maliennes. Pendant ce temps, le pays reste sous embargo. Lors de la dernière mission du médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, les autorités de transition ont proposé 24 mois de plus, alors que la CEDEAO exige 12 à 16 mois. Pour l'analyste politique Cheikh Oumar Doumbia, les deux parties doivent vite renouer le dialogue. Il est joint au téléphone par Mamadou Samasekou.
C'est un climat d'hostilité réellement. Il y a de moins en moins de place pour la courtoisie diplomatique, les relations de bonne amitié. Les autres États membres ont la possibilité de compter les uns sur les autres pendant cette période, sauf que c'est nous qui sommes isolés, et en tout cas dans notre voisinage direct, et nous risquons beaucoup plus que la CEDEAO. Donc il est important qu'aujourd'hui, même dans un contexte particulier, c'est important que nous puissions aller vers la CEDEAO, discuter pour réellement trouver un accord qui favorisera la paisibilité et le bien-être des Maliens. Mais sans cela, nous mettons en péril et à risque l'État tout entier.
Au ministère des Affaires étrangères du Mali, on souligne que depuis la dernière mission de l'émissaire de la CEDEAO, le comité local dédié aux négociations n'a tenu aucune rencontre. 6 membres du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, ont été suspendus par le comité stratégique. C'était lors de sa réunion ordinaire tenue ce week-end à Bamako. Ils sont accusés d'avoir quitté la salle de réunion après l'évacuation de El Hadj Oumar Abdou Touré de l'association Kaoural, une sortie interprétée comme un signe de complicité avec celui-ci, estime des membres sanctionnés dans un communiqué. Les responsables du regroupement estiment que les personnes visées ne sont plus autorisées à s'exprimer et à agir au nom du comité stratégique, ni à participer aux réunions. Maman Baba Kunta nous en dit plus.
Les responsables du comité stratégique expliquent cette suspension par le soutien que ces personnes ont affiché au président de l'association Kaoural, alors que ce dernier a tenu des propos inadmissibles lors d'une réunion extraordinaire. Abdelkader Meïga, membre du comité stratégique du M5-RFP.
Le président du comité stratégique a souhaité savoir pourquoi il y a un certain monsieur Abdouré, président de Kaoural, était présent dans la salle et comment il a été admis. Donc, aussitôt cette question posée, monsieur Touré a commencé à répondre violemment. Donc, finalement, les camarades qui étaient là-bas, très mécontents, lui ont demandé vraiment de sortir un Mali militari, quoi. Et bon, quand il est sorti, il y a d'autres membres du comité stratégique qui l'ont suivi et qui ne sont plus revenus jusqu'à la fin de la réunion.
Daba Diallo du mouvement Anko Malidron fait partie des personnes suspendues. Pour lui, cette suspension est un règlement de compte politique. Il affirme qu'aucun texte du comité stratégique du M5-RFP ne prévoit cette mesure.
Ce que j'ai vu dans la salle, ce n'est pas digne d'une réunion de haut niveau au niveau du comité stratégique du M5. C'est pourquoi nous sommes sortis de la salle et à la sortie, on s'est exprimé pourquoi nous sommes sortis de la salle. Ce qui a fait qu'ils ont fait les communiqués pour dire que nous avons été suspendus. Voilà, je vous dis clairement qu'il n'y a aucun texte régissant le fonctionnement du comité stratégique du M5-RFP.
Dans un communiqué, Konimba Sidibé, également suspendu, estime que le M5-RFP est leur bien commun et qu'ils ne permettront à personne de s'en approprier.
8h10 à Ménaka, c'est dans le nord du Mali. Un peu plus d'un mois après les premiers affrontements entre la coalition MSA Gatcha et l'État islamique au Grand Sahara dans les localités de Tamalette et Inchinanan, plusieurs personnes ont afflué vers Ménaka et le village de Emissemis dans le cercle d'Inekar. Selon la direction régionale du développement social et de l'économie solidaire, 15 677 personnes, dont 10 033 garçons et filles, seraient identifiés comme déplacés internes à la date du 31 mars 2022. Des détails sur ces chiffres avec notre correspondant dans la région, Mohamed Ag Issa Feitan.
2520 ménages, soit 15 677 personnes, seraient identifiés comme étant des déplacés internes. Ils sont répartis entre la commune de Ménaka et les cercles d'Inekar, particulièrement les villages d'Inekar. Dans les cercles d'Inekar, 9791 personnes ont fait mouvement vers Emissemis contre 5886 vers la commune de Ménaka. 4102 femmes, dont 967 chefs de famille, sont parmi ces déplacés. Ces chiffres ont été donnés par la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire à la date du 31 mars. Déjà, les ONG se mobilisent pour venir en aide à ces populations qui ont tout laissé derrière elles. Selon toujours la Direction régionale, les personnes continuent leur mouvement et les chiffres pourraient augmenter dans les jours à venir. À l'occasion d'un don de vivres par le gouvernement, le maire de la commune urbaine de Ménaka a jugé impératif d'aider conséquemment les personnes déplacées. Nanout Koukia explique qu'une famine n'est pas à exclure dans les semaines à venir. Mohamed Ag Issa Feitan, Ménaka Studio Tamani.
Restons toujours au nord du Mali. En cette période de chaleur, des incendies surviennent fréquemment dans les points de vente de carburant à Tombouctou. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, ces incendies cause des dégâts importants. La situation était des habitants de la cité des 333 Saints où les lieux de vente informels d'essence deviennent nombreux. Le reportage de notre correspondante Maïmouna Mourou depuis Tombouctou.
Au moins, deux incendies ont été déclarés cette semaine. Aucun d'eux n'a fait de victimes, mais le pire a été évité. Commandant de compagnie des sapeurs-pompiers de Tombouctou, capitaine Bakary Sinayoko, explique.
L'avant-dernier cas, ça c'était par rapport à un feu de point de revente d'essence. Donc ça c'était dû à l'action d'un fumeur qui a allumé le briquet, qui a aussitôt engendré l'inflammation des gaz dégagés par l'hydrocarbure.
Revendeur de carburant à Tombouctou, Agissa Diko a aussi vécu cette mésaventure. Un récipient contenant du carburant a pris feu. Il dit ne pas connaître l'origine de l'incendie.
Ça trouvait que j'étais en train de mesurer tout près ici. Directement, je vois le feu là. Je vois le feu. C'est à pris feu. Directement, moi, je suis sorti. Je me suis allé. Mais comme il n'y a pas de blessure, il n'y a rien. Il n'y a que de l'essence seulement à gasoil qui a brûlé.
Les autorités en charge de la protection civile demandent aux propriétaires de ces points de vente de prendre des précautions. Car disent-elles, ces incendies peuvent souvent tourner au drame, dû au fait que ces points de vente sont exposés et proches des magasins ou des maisons. De Tombouctou, Maïmouna Mourou pour Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Écho de nos régions, un vieux pêcheur est décédé samedi dernier à la suite d'une morsure de serpent à Bafoulabé. C'était à Tinkolé, dans la commune rurale de Walia, cercle de Bafoulabé. Des témoins indiquent que le pêcheur a pris le serpent dans son filet pensant que c'était un poisson. Transporté à l'hôpital, son décès a été constaté à l'arrivée. Le même jour, dans un village voisin du nom de Fatako, le corps d'une dame mentalement malade a été retrouvé dans la brousse. Elle s'était évadée quelques jours auparavant. Ses obsèques ont eu lieu le même jour à Fatako. Le taux de paiement de la redevance eau à la date du 31 mars 2022 a atteint plus de 70% dans les 7 zones de production de l'Office du Niger. Selon les responsables de l'Office du Niger, environ 800 millions de francs CFA ont été cédés pour faire face aux difficultés de la zone couvrant 13 000 hectares. Il s'agit de la zone de Massina, Kolongo, Mbewani, Nyono, Molodo, Ndebougou et Kourou-Mari. Ces informations ont été données cette semaine par le président directeur général de l'Office. Les exploitants agricoles ont encore jusqu'au 15 avril 2022 pour s'acquitter de leur redevance eau. À 8h passées de 15 minutes, se referme cette édition. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site studiotamani.org ou en appelant au 37 321. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Mamadi Keïta était à la mise en onde, Sekou Gadjigo vous l'a présenté. Tout de suite, Juliette Koulibaly sera là pour la version Bamanankan.